Messieurs, dames, nous revoilà, mais attention, c'est peut-être la dernière fois, on ne sait plus rien, on ne tire plus de plan sur la comète. Les annonces étaient mercredi soir, Fred. Mercredi Exactement. Soir, on nous a coupé le studio. Le studio donc s'est arrêté vendredi. Donc on va devoir repartir en distanciel. On l'espère. En tout cas, c'est bien triste. C'est bien bien triste, Fred.
Effectivement, le retour du mode maison, c'est à moins de charme.
Ça a moins de charme. Bon, en même temps, par rapport à tous ceux qui vont perdre des salaires, des boulots, des machins, des trucs, on va pas non plus s'épancher trop longtemps sur notre malheur. On est tous ravis tout de même d'être avec vous pour ce nouveau Sport Épique. Ouais. Allez, c'est parti. Fred, tu es mon seul invité, mon seul consultant, tout simplement parce qu'autour de cette table, normalement, il n'y a que des profs. Et comme tout le monde est en vacances, comme d'habitude, eh ben, il reste toi et ça tombe bien comme tu es le meilleur. Évidemment, je dis ça à chaque mec.
Bonjour à tous.
On va parler confinement, forcément, comme tout le monde. Alors, vous êtes peut-être saoulés, donc on va peut-être passer rapidement, sauf si Fred, tu es passionné par le thème et que tu es plus original que les autres chroniqueurs radio. Donc ça bat sur nous, là. Qu'est-ce qui se passe pour le sport amateur? On s'arrête jusqu'à début décembre, je crois.
Ouais, dans un premier temps, on s'arrête. Donc, toutes les activités sportives, tout le sport amateur, hein, les compétitions, entraînements sont à l'arrêt total. Donc, on va voir jusqu'au 1er décembre pour l'instant, je crois. Et puis, on va voir ce que ça va donner en fonction des résultats de la courbe d'évolution du virus.
Mais du coup, on en parlait il y a 15 jours. Ça semblait... Le monde pro continue avec tous les tests qu'ils avaient, avec forcément les fortunes en jeu et ainsi de suite, ça paraissait plutôt logique. Nous, on se demandait ici pourquoi on nous laisse le droit de continuer. Bon, bah là, je pense que la décision, elle est sage par rapport au reste.
Ouais, tout le monde l'avait vu venir. De toute façon, ce que tu disais, on était un peu perplexe sur le fait que le jeudi, on n'avait pas le droit au vestiaire, mais le dimanche, on pouvait y aller,
etc.
Bon, voilà, au moins, ça aura le mérite de mettre tout le monde au même niveau. On est à l'arrêt, on se prépare sérieusement pour la reprise qui sera peut-être en décembre plutôt ou plus sérieusement je pense en janvier quoi.
Écoute, pour l'instant c'est début décembre, donc forcément qui dit début décembre dans nos régions dit le froid, la pluie, et ce qui va avec. Évidemment, déjà en temps normal, c'est le moment des blessures. Alors toi, tu vois la chose comment là? Parce que on va s'arrêter un mois et je pense pas que nous, tous les amateurs là, tout le monde va faire l'effort d'aller courir et de se maintenir en forme pendant un mois. Donc tu vas revenir avec une sous-condition physique et déjà qu'on pète régulièrement en cette saison, est-ce qu'on va péter davantage ou moins, hein? Peut-être moins puisqu'on n'aura pas une surcharge d'entraînement non plus.
Tout dépend encore une fois de l'activité, mais effectivement, c'est quand même pas l'idéal pour en termes de préparation. Bon, moi, je prends mon petit cas personnel. Je me suis blessé juste la dernière semaine. Donc maintenant, au moins, je vais avoir le temps de récupérer.
Très bien.
Mais voilà, ça, c'est le bon enseignant toujours. Se blesser au moment des vacances.
Évidemment.
Mais, non, je pense qu'effectivement, ça va encore hacher la saison. Donc pour le sport amateur, c'est ça qui est compliqué. C'est que, alors, je me mets à la place. La dernière fois, on avait un entraîneur qui était là comme invité. Ça, cette gestion-là, elle est super complexe parce que effectivement, ça dépend de tout à chacun. Donc ça risque d'être...
Qu'est-ce qu'il va dire au mec, quoi. Je sais pas s'il va demander, enfin lui ou d'autres évidemment, est-ce que les amateurs vont avoir un plan d'entraînement quand même pour parce que les championnats vont pas s'arrêter cette fois-ci, hein, ça va continuer derrière.
Suivant les niveaux, je pense ils vont repartir plan d'entraînement, mais je pense ça
mais
va
même
être,
en bas
ça va être compliqué.
Fred, même ouais. en bas des niveaux, tu peux pas non plus te permettre de reprendre début décembre avec une condition physique de zéro, donc. Donc je pense qu'il y aura quand même un petit plan pour chacun. Quoi.
Quand t'es tout en bas, la condition physique c'est aléatoire, donc ça va en rajouter. Quoi,
enfin, ça on connaît pas le tout en bas. On est... Tu penses pas qu'il fallait aussi peut-être s'adapter au sport? Je pense au badminton par exemple. Tu vois tous les joueurs, donc c'est pareil, on parle petit niveau. Tous les joueurs petit niveau, est-ce qu'ils auraient pas plus droit de continuer à jouer leur badminton? C'est en distanciel, enfin.
Mais après c'est super compliqué. Le plus simple, hein, pour le commun des mortels, c'est la même règle pour tout le monde. au moins ça a le mérite, on n'est pas en train de se demander bah ouais, mais moi je fais un peu de badminton mais aussi un peu de basket, alors j'ai pas le droit d'aller là pour les clubs, la gestion voilà du quotidien. Donc c'est plus simple, c'est plus clair, parce qu'on aurait pu dire aussi bah ouais, ça dépend des villes, voilà, si t'es dans une commune éloignée avec 50 âmes qui vivent, bah peut-être que là tu rencontres un voisin tous les 3 jours, donc c'est pas très compliqué. Mais je pense voilà, on fait simple.
Ouais, ça mais permet dans ces cas-là, avec ta simplicité, Fred, moi je fais ministre des sports aussi. Hein. Enfin, je suis. C'est pas compliqué, hein. Tu dis non à tout le monde. Ben, moi je trouve que le boulot, justement, ça aurait été de dire ben, écoutez, s'il est vrai en tout cas que le fait de simplement toucher un objet, c'est pas forcément ça qui fait transmettre le virus. Donc si je peux me permettre de toucher la balle de tennis pour la rendre à mon adversaire et que c'est pas ça qui va transmettre, pourquoi on empêche au tennisman l'entrée de quoi que ce soit, quoi, tu vois. Moi c'est là. Et après, c'est quand même leur boulot, eux, de savoir. Qu'est-ce qui est jouable et pas jouable. Après, je suis d'accord aussi avec toi, évidemment, ça devient compliqué de tout dissocier, machin, mais bah, pour moi, c'était à eux de faire ce distinguo.
Ouais, mais c'est ça aussi, quelquefois, prendre la hauteur, c'est aussi savoir prendre des décisions qui font que les choses se simplifient pour le commun des mortels. Effectivement, suivant les activités, il y a contact, il n'y a pas contact, il y a éloignement et tout. Bon, je pense là, ils permettent que les gens puissent continuer à faire une activité ou une pratique sportive, alors je parle de course à pied ou de marche ou de randonnée, je crois dans un rayon de 5 km, c'est quelque chose comme ça. Bon, au moins, ça permet aux gens de continuer à s'aérer.
Ouais, et puis, pour
le reste, bah, il va falloir attendre. Mais de temps en temps, ça fait du bien aussi d'avoir des décisions sages et puis compréhensibles et interprétables pour tout le monde. Quoi. Donc,
voilà, faut savoir faire simple. Dans la facilité, toi aussi, mon frère.
Non, parce que quelquefois, c'est.
Bah, moi, je te le dis très clairement, si, et en l'occurrence, on l'est tous les deux joueurs de tennis, bah, je comprends pas pourquoi on m'interdit l'entrée de la salle. Voilà, je comprends pas. Ou alors le virus a muté et on peut se le transmettre à 20 mètres l'un de l'autre. Sinon, bah, je vois pas l'idée.
Mais des spécialistes se diront bah, voilà, t'es en salle, donc c'est confiné. Donc faut être sûr que ça va être suffisamment bien ventilé, bien aéré. Parce que les réglementations, c'est normalement c'est 10 minutes toutes les heures, hein, la ventilation, donc ce qui n'est pas simple. Donc, faut quelquefois couper.
Fred, ou la voix de la raison. Fred, on est dans une période, bah tiens, c'est, bizarrement, c'est pas très Covid, mais rugbystiquement parlant, t'en es où dans ton visionnage télévisuel là? Parce que.
Bah, ça y est, c'est reparti.
C'est reparti.
On a eu le droit à un bon match masculin, là, le France-Pays de Galles.
Le France-Galles est très bon.
Qui était sympa à voir. On a eu un petit match féminin qui était nettement moins sympa à voir.
Ouais, t'as regardé?
Ouais, j'ai regardé un petit peu. D'accord. Justement pour voir où on était les filles entre guillemets par rapport à cette reprise, et on sent bien aussi que certainement au quotidien la gestion du rugby féminin était un peu moins, enfin cette gestion était moins exigeante que chez les garçons. Et on a bien senti que c'était plus de la reprise pour elles, c'était assez nouveau, alors que les gars on les sent déjà complètement dedans. Bon, après ils ont un match super important qui doit nous donner le résultat du tournoi.
Mais
on ne donnera
bleus,
pas le résultat dès maintenant.
De toute façon, ils n'ont rien stoppé du tout.
Je parle simplement par rapport au match en équipe nationale.
Ouais. Mais ils jouent en club depuis déjà des plombs.
Ouais. Mais les filles, tu sentais que c'est plutôt une reprise.
C'est plus compliqué. Ouais. En tout cas, la France, c'est vrai qu'on a des petits problèmes quand même de différé. Mais la France.
On ne donnera pas le résultat. On ne donne pas le résultat encore.
Mais retrouver la France qui joue ces matchs couperés, ça fait plaisir parce que. Alors, est-ce que c'est l'ère Galtier? Est-ce que c'est l'effet Galtier? Mais c'est vrai qu'on est obligé de se dire que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas respiré, ce petit air de victoire, et ça fait du bien aussi.
Ouais, puis au-delà de la victoire, c'est agréable à voir. Donc on s'est quand même longuement ennuyé ces dernières années par rapport à l'équipe de France, et là faut quand même l'avouer. Alors il y a Galtier, il y a Ibanez, il y a tout un staff qui a été remis, complètement remplacé, mais c'est vrai que là c'est assez agréable, et puis on a l'impression aussi que les joueurs ils se font plaisir.
Ouais,
ça fait du bien, parce qu'avant on les sentait, ils pleuraient en entrant sur le terrain.
Girado,
le pauvre garçon, c'était compliqué.
Ah, très compliqué. Il portait la défaite sur le dos avant d'avoir démarré.
C'était compliqué. Il y a quand même le record du monde du nombre de défaites en tant que capitaine.
Il fait du mal, Girado.
Et franchement, là, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc,
Est-ce qu'on est des sportifs lambda, nous, Fred, à se dire la France gagne, donc j'aime bien le rugby? Et quand la France perdait, bon, bah, ça y est, on se désintéressait. Moi, je te dis clairement, j'avais arrêté le rugby. J'avais arrêté de regarder le rugby parce que cette accumulation de défaites, ça m'agaçait. Et ce non-jeu, il m'agaçait. Mais souviens-toi, l'ère Noves, qui a pas duré longtemps, mais c'est pareil, le jeu avait repris avec Noves.
Il avait repris au départ et puis il était redescendu. On avait retrouvé cette pente descendante, lancinante, peu agréable. Alors que Noves, il était quand même précédé d'une super réputation.
Noves, c'est sa réputation de faire jouer ses équipes. Et là, c'est sûr, ça avait plongé, ouais. Mais on en avait eu quand même du jeu. Mais il avait perdu, donc forcément, il était mis sur la sellette. C'était compliqué.
Alors forcément, pour suivre, hein, si t'as des résultats, y a tout de suite un engouement qui se crée et tout.
Mais, c'est vrai.
Alors, rugby, ça reste un sport. Enfin, quand t'aimes bien, ça reste un sport assez spectaculaire. Il y a une dimension physique, il y a des choses. Donc, enfin, malgré tout, moi, j'étais resté fidèle assez.
Ouais. Mais moi, je disais à l'époque, tu vois, entre un match moyen de foot et un match moyen de rugby, je regarde le rugby tous les jours parce que j'avais l'impression qu'il se passait tout le temps quelque chose. Ce qui a pu être vrai là, sur ces 5-6 dernières années, le rugby a aussi certainement changé. Ça tape énormément de chandelles. Donc, et ensuite, c'est un peu qui peut l'apprendre. Et je trouve qu'il y avait énormément de mêlées ouvertes, de machins, de regroupements. Donc, on perdait un peu de cette vision du rugby, French Flair, évidemment, les années folles, quoi.
Ouais, il y avait de ça. Puis c'est vrai que les résultats participent à ça. Mais c'était pas rendu quand même au point du football. Parce qu'on n'en est pas non plus super gavé, entre guillemets.
Ouais, t'as raison. On y viendra évidemment. Une petite page Ligue des Champions, grande page Ligue des Champions tout à l'heure. Je suis descendu dans le sud-ouest, moi, Fred, je te le dis. Et grosse discussion avec mon pote du sud-ouest au niveau des générales au rugby. Ces fameuses batailles générales. Donc, est-ce que toi, t'as l'œil aiguisé, qu'est-ce que tu vois dans ces générales? Parce que nous, on s'est posé la question et on a eu grosse engueulade, tu vois.
Tu veux dire, qu'est-ce qu'on voit du point de vue des acteurs eux-mêmes
comme intensité mise dans la générale, tu vois.
Ça dépend. Je pense que ça dépend des fois. Il y a des fois, tu sens que... Et d'ailleurs, même, je pense que l'arbitre, il laisse faire aussi, parce que de toute façon, il ne pourrait pas bloquer grand-chose. Mais t'as l'impression que c'est pour que la pression retombe aussi. Hein, quand c'est un peu trop tendu, de temps en temps, pendant 5 minutes, c'est un peu du n'importe quoi, mais au moins, ça calme tout le monde. Ça fait partie du folklore aussi.
Exactement. Non, je te dis, moi, le débat, il était là, justement, comme tu dis, ça fait partie du folklore. Et quand tu regardes une générale, alors pas toutes, hein, parce qu'il y a quand même quelques cinglés, mais quand tu regardes une générale, les mecs, ils savent très bien qu'ils font 120 kilos, ils savent très bien que s'ils alignent une vraie pêche, ils peuvent tuer le type en face. Et donc, quand tu les regardes vraiment, les trucs, c'est énormément de chiqué. C'est énorme. Les mecs font semblant de taper, ils font semblant de rater le mec, ils font semblant de taper dessus. Et c'est beaucoup, beaucoup le folklore, comme tu disais.
Tous
les spectateurs autour qui sont contents, ils ont leur titre général. Comme tu disais aussi, il y a l'arbitre, il s'en fout, il se met en dehors du truc, il regarde, il attend que ça passe. Ça y est, les mecs, vous avez fini votre cirque, on reprend.
Disons que je pense que surtout l'arbitre, il regarde une chose, il regarde si c'est bien deux mecs de 120 kilos qui s'affrontent. Parce qu'effectivement, quand c'est ça, quand c'est le mec de 120 kilos qui te met une mandale, quand tu fais le même gabarit en face, ça fait.
Tu dois l'accuser le coup quand même.
Ouais, mais bon.
Attends.
Si c'est le demi de mêlée qui fait 70 kilos, tu peux dire qu'effectivement là, c'est la civière derrière.
Je suis pas d'accord
avec toi. Ils sont pas trop.
À 120 kilos tous les deux, s'il y en a un qui aligne vraiment, l'autre il a beau être gaillard, s'il la prend pleine pêche, il est allongé par
déjà, c'est des rugbymen, hein, c'est pas des boxeurs, donc ils mettent aussi. Ils ont du mal à atteindre la cible.
On est d'accord, tout simplement parce qu'ils font semblant. Je te le dis, moi, ils font semblant.
De temps en
temps, regardez les générales. Alors là, le souci, c'est que si je vous dis ça, et les chers auditeurs, vous allez faire la même erreur, vous allez regarder les plus belles générales du rugby. Alors évidemment, les plus belles générales du rugby, les mecs, pim pam, ils font pas semblant. Mais il faudrait regarder sur 100 générales, il y en a combien où il y a vraiment un coup qui part.
Ceci étant, où t'as raison, c'est que quelquefois ça part beaucoup plus quand c'est juste un cas isolé, quand c'est deux gars qui s'attrapent.
Ouais.
Donc on a déjà vu Chabal mettre, je me souviens le titre, le pain de l'espace à je sais plus quel gars. Bon, il l'avait désossé, l'autre, tu sentais bien que c'était pas pour rire, il était tombé, d'accord, dans les étoiles. Effectivement, quand c'est les 15 qui se jettent les uns après les autres, c'est aussi c'est le folklore. Hein,
folklore.
C'est aussi,
de toute façon, il y en a plus. Donc c'est vrai que il y en a plus énormément. Il y a trop de caméras, il y a trop de.
Ceci étant, ça me fait penser au hockey en NHL.
Ouais,
où,
ouais.
Où, Ouais. Dans les clubs, ils recrutent même des gars où le gars, il est là que pour ça. Ouais. Il est là pour mettre 2-3 fritons, déclencher ça, puis après, ils ressortent.
Mais c'est pareil. C'est le, ça, le hockey, on en voit moins, mais c'est pareil. Tu vois les coups qui balancent.
Ouais, et puis, bon, c'est...
Ah, ils sont en patin, ils sont ridicules à se taper sur la tronche. C'est... Enfin bon, bien sûr, on respecte énormément le rugby, et c'est pas pour ça qu'on le regarde. On a nos petits problèmes de charnière habituels. Alors là, qui pour le coup, c'est pas des problèmes, parce que Dupont vient d'être extraordinaire contre le Pays de Galles. Donc forcément, c'est pas un souci, heureusement. Sauf que Dupont, moi, depuis que j'entends ce nom-là, ça doit faire 2 ans à peu près, 2-3 ans, annoncé comme la petite pépite qu'il est. Il est fabuleux, ce joueur. Sauf que c'est le problème de la France depuis 20 ans. On n'a pas réussi à aligner deux charnières, deux fois la même charnière sur 5-6 matchs de rang depuis...
Ouais, mais c'est aussi, c'est le rugby moderne, c'est des postes qui sont ultra exposés.
Mais donc pas tellement, en fait. Mais pas tellement. Qui se fait chasser la tronche? Le 9, il est protégé. Le 10, il est protégé.
Le 10, il prend souvent quand même, parce qu'il faut qu'il attaque la ligne de temps en temps.
C'était qui notre Morgan Morin, lui. Lui, il n'était pas protégé, il y allait. Mais moi, je trouve que les fameux flanqueurs, là, les machins, qui sont censés aller chasser le 10, c'est pas évident, hein, avec la règle des 10 mètres et tout ça.
Mais puis ça fait comme le football américain, où tu sens qu'il y a aussi des gars qui sont là pour protéger ces joueurs-là.
Voilà.
Donc c'est plutôt eux qui s'affrontent, mais de temps en temps, malgré tout, ils en prennent, et malheureusement, le 9 ou le 10, même s'ils ont, au niveau morphologie, ça a beaucoup progressé, bon, ils sont encore très très light par rapport au
Dupont,
deuxième
ou troisième. Il est bien gaillard quand même.
Il est petit, il est rablé, il est planté.
Il est bien bien planté. Et donc est-ce qu'on peut espérer qu'on va se stabiliser une charnière?
Faut espérer, parce que là on a deux gars qui sont quand même à un super niveau, qui sont très intéressants et très joueurs surtout. Donc ça fait du bien. Bon, après faut juste espérer qu'il n'y ait pas de blessure, hein, parce que Dupont il blessait souvent aussi.
Dupont ça blesse malheureusement. On ferme notre petite page rugby, on félicite le 15 de France malgré ce petit différé, on s'en excuse.
C'était chouette.
J'avais envie de vous parler, messieurs dames, de pentathlon également, et d'adaptation du sport audio télévision, puisque évidemment on sait tous que c'est la télévision qui apporte le pognon dans les différentes fédérations, donc on dépend tous un petit peu de ça, et le pentathlon, comme d'autres, est obligé de s'adapter. Alors qu'est-ce que c'est le pentathlon à la base, qui est devenu le pentathlon moderne? Et alors maintenant qu'on va l'appeler le pentathlon moderne, parce que je ne sais pas, Fred, toi, le spécialiste de tout, est-ce que tu es au courant des dernières modifications du pentathlon?
Alors, je vais te dire une erreur, mais c'est des formats ultra où ils enchaînent en fait les épreuves.
Ouais.
On les voit, donc c'est des formats réduits, épreuve par épreuve, et puis ils finissent sur la partie course, justement, où là, il y a un décompte de points qui est plus important pour que ce soit un final explosif entre guillemets, et puis qu'il puisse y avoir, je dirais, un peu de piment jusqu'au bout.
Et avant, tu sais que c'était donc à la création, parce que ça
que c'est
depuis...
sur plusieurs jours avant, alors
voilà,
que maintenant
sur 5
tout
jours.
Est
voilà. 96, ça passe sur un jour. Et là, il parle pour les prochains JO, il parle de 90 minutes.
Ouais, c'est possible.
Une heure et demie.
Ouais. Mais un peu à l'idée du triathlon, hein, qui a des versions sprint, etc., pour que on puisse tout voir, quoi.
Ouais. Parce que moi, très sincèrement, au JO, je regarde 95% de ce qui passe. Mais c'est vrai que le pentathlon, non, je comprends pas où ils en sont.
Pourtant, on a une très jolie athlète, Elodie Clouvel, ça doit être ça, qui a été championne du monde, championne d'Europe, et qui en plus est plutôt sympathique à regarder.
C'est là que t'es bon. Donne-moi les sports du pentathlon.
Alors, il y a du tir.
Il y a du tir pistolet, oui.
Et voilà, il y a du cheval, il y a une partie
équitation.
Cheval, équitation, il y a de l'escrime, il y a de la natation, et puis ça finit par une course à pied.
Voilà, et la course à pied, il y a, donc c'est pareil, ils ont changé 2012, ils ont rajouté.
Ils ont rajouté
pendant la course à pied en mode biathlon, du coup.
Ils s'arrêtent pour tirer à chaque. Alors, il doit y avoir 3 tours, je crois, maintenant, c'est 3 distances, et ils ont 3 passages au tir ou quelque chose comme ça.
Voilà, bon, très certainement, je ne vais pas faire croire à tout le monde que je suis au courant, parce que je ne le sais pas, mais faites confiance à Fred, évidemment, et allez regarder ce sport, certes un peu, obsolète, mais ça fait partie des piliers de l'olympisme.
Ouais, c'est ça, puis ce qui est beau, c'est qu'il faut être un touche-à-tout, parce que passer de la relation avec le cheval, passer au tir, être capable de courir... ouais, enchaîner les streams et tout. Je trouve ça.
Ouais. Mais alors là, pour moi, tu vois, c'est trop du touche à tout. Parce que quand on fait un triathlon, eh ben, on peut se dire qu'on est quand même sur du cardio, du machin, du truc. Donc, si t'es fort en course à pied, bon, bah, tu te dis que tu vas avoir un cœur pour pouvoir nager, pour pouvoir faire du vélo. Là, les relations entre les différentes activités.
Ouais, elles sont pas évidentes. D'ailleurs, je me suis toujours posé la question sur la gestion des entraînements. Parce que, tu vois, ne serait-ce que la partie équitation, faut nouer une relation avec le cheval. C'est long, ça. Et ça n'a vraiment strictement rien à voir avec les 10 touches pour l'escrime, quoi.
Ah,
donc,
ouais, dur, 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 dur. On va faire une première petite coupure, mon Fred, pour ce pentathlon. Vous avez eu toutes les dates, vous avez eu les changements. Tu vas me citer un sport, un autre sport ou deux, si t'es assez bon, qui s'est adapté à la télévision.
Un sport qui s'est adapté à la télévision, j'irais le. Oh, j'ai beaucoup de mal là, tiens, là-dessus. Fais une petite colle.
92.
Le tennis de table. Le tennis de table.
Exactement. Avec.
Tu veux dire. La réduction au passage à les 7 en 11.
Ouais,
pour que ce soit plus court.
Tout à fait. Et puis pour rajouter au niveau émotionnel, voilà. Parce qu'un set de 21 points, c'était trop long.
Ouais.
D'où devrait peut-être s'inspirer le tennis, toi, le grand spécialiste. Je sais que t'as pas trop envie de bouger.
Non, j'ai pas envie de bouger par rapport à ça.
Moi, je te jure
ouais.
que là, quand on a attaqué Roland, alors déjà, ça a été un Roland compliqué, mais en plus là quand tu sais que tu pars pour 4-5 heures de Roland dans le vide où il n'y a pas un bruit
Effectivement c'est toute la problématique, mais si tu regardes la finale Open d'Australie 2017 Federer-Nadal, t'aurais même voulu que ça dure 7 ouais. ou 9-7.
Non mais je peux pas discuter avec toi de ça, t'es pas honnête, toi t'es trop passionné, mais prends des mecs comme moi, je te jure que quand on se met devant la télé c'est bien 1h30, c'est bien 2h, après c'est trop long.
C'est pour être en ce moment on parle beaucoup aussi sur le cyclisme, de réduire les durées des étapes, des courses,
ouais.
pour que ce soit plus dynamique et
tu
effectivement que ça tienne sur l'amplitude.
Les fameuses les courses célèbres, hein, tous les Grand Vélodrome, les tout ce que vous voulez, Flèche Wallonne et compagnie, tout ça c'est 250 bornes quoi. C'est énorme. Alors, qui suit ça de A à Z
et l'historique c'était Bordeaux-Paris qui faisait 500 et quelques kilomètres à l'époque et qui a disparu parce que version trop longue entre guillemets.
Bien sûr, version trop longue.
Mais ouais, c'est assez.
Bien sûr. Le tennis de table avait eu une autre idée qu'ils sont en train d'abandonner un petit peu. Ils avaient fait une énorme étude sur les couleurs. Donc, avant, alors là, on vous parle d'avant 90, on jouait tous avec des balles blanches sur les tables vertes. Et il y a une grosse étude japonaise sur le fait que les meilleures couleurs pour le tennis de table, pour la télévision, en tout cas, pas forcément pour le joueur, mais pour la télévision, c'était balle orange sur table bleue avec du sol rouge autour. Donc, et là, ils sont en train de revenir un petit peu dessus.
Et le joueur, il vomit, lui, quand il y a trop de couleurs.
Ils reviennent un peu dessus parce qu'ils se rendent compte que finalement, c'est pas du tout ça qui fait venir les gens devant la télé pour le tennis de table. Ce qui est tout à fait dommage parce que moi, j'adore regarder le tennis de table. Autant voir jouer des pimpins, c'est nul. Enfin, c'est comme dans tous les sports, tu diras.
C'est ultra impressionnant.
Autant voir jouer
les
superstars, c'est impressionnant.
Ça va à une vitesse, ouais.
Oui, Joël, oui, tout à fait. Le tennis de table est passionnant.
Alors, je finis sur une petite histoire de couleur. Tu sais qu'au tennis, ils avaient essayé pour le Masters de Madrid. À l'époque, c'était Yon Thiriac qui gérait et la terre battue était bleue. Donc, il avait changé ça, terre battue bleue et couleur un peu plus vive des balles. Et en fait, tous les joueurs s'étaient plaints. Excepté Rodge, c'était plein de cette terre battue bleue, soi-disant qu'elle était plus rapide, etc. Si bien qu'ils ont abandonné très rapidement. Alors que c'est un nouveau concept pour que, aussi au niveau télégénique, ce soit plus attirant.
Ouais. Mais je crois que personne n'aime le changement. Malheureusement, c'est bizarre parce que tous nos présidents, à chaque fois, leur campagne électorale, c'est le changement, et dès qu'il y a un changement, c'est catastrophique. Je vois tout ce qui est voté, même la passe aux gardiens à l'époque, au foot.
Ouais.
Quand il y a eu interdiction de la passe aux gardiens, c'était un scandale. Alors que maintenant, tu te dis, si tu revenais à la passe aux gardiens, mais c'est un scandale, tu voyais les matchs, c'était ridicule.
Ouais, c'est vrai que c'était
ridicule.
Très très lent. Ouais.
Ah, déjà, qu'on s'ennuie souvent au foot, mais alors là, c'était encore pire. La petite coupure, c'est tout de suite, c'est toujours toi Joël qui nous la gère, c'est toi le programmateur musical. À tout de suite messieurs dames. Allez, c'est reparti pour nous. C'est reparti avec mon Fred. Mon Fred, ça va toujours là?
Super bien, la Dream Team, tout va bien.
Tu ne tousses pas, tu n'as pas de température, tu es beau comme un dieu. On continue. Joël, toujours emprisonné avec nous. Il est obligé de se taper sport épique. Et il vient de demander une petite, un petit éclaircissement au niveau du glossaire du sportif. Qu'est-ce qu'un pimpin? Un pimpin, mais évidemment, vous, derrière votre poste, vous le savez parce que vous nous écoutez souvent. Un pimpin, c'est tout simplement un tocard. Bien sûr. On enchaîne avec du football, évidemment, page football, puisque nous avons eu notre fameuse Ligue des Champions cette semaine. On peut vous en parler longuement parce que tout passe à la télé maintenant, si on a la chance d'avoir les chaînes, évidemment. On va démarrer, évidemment, par nos échecs avant de s'enflammer, par nos réussites.
Comme toutes les semaines.
Non, pas comme toutes les semaines. Fred, tu es négatif. Nous sommes Lavallois, donc nous sommes fatalement tous un petit peu rennais à côté. Rennes, j'ai regardé pour le coup. Si j'avais pu balancer quelque chose dans l'écran, je l'aurais fait. J'avais rien sous la main. Je jette la pierre à personne à Rennes. Hein. C'est juste que le niveau est trop élevé. Voilà.
Ah mais il jouait à Séville contre une belle équipe, c'est des matchs pas faciles.
Mais je dis pas que c'est facile, c'est pour ça que je ne jette la pierre à personne. Si j'avais été capable de faire mieux, eh ben j'aurais été professionnel, c'est pas le cas. Je dis juste, je reviens sur cette fameuse idée que si un entraîneur, si un président, si même une équipe ne se sent pas d'aller jouer là-haut, on n'y va pas quoi. Parce que si c'est pour se faire broyer et dire « Ah ouais, mais on a perdu 15-0 », ben moi ça me va pas quoi. Moi devant la télé, je m'ennuie. Alors vous allez prendre certainement, je sais pas combien ils prennent, là, 15 ou 20 millions pour avoir été au premier tour, mais ça va être un échec. Tu regardes Marseille, ils sont sur leur 11e défaite. Bon ben, est-ce que c'est pas plus humiliant pour une ville que de rester simplement à son niveau national quoi?
Bah, pour venir à leur secours, effectivement tu peux parler de ça pour Rennes en disant ouais, c'est une petite, entre guillemets, une petite équipe, c'est une très belle équipe, mais bon, tu regardes le match de Paris, tu t'ennuies autant alors qu'ils ont un budget 10 fois supérieur. Donc je pense que c'est le football français qui doit se poser quelques questions quand même là, parce que ça fait plusieurs semaines où on voit des purges, on s'ennuie, alors que tu prends des clubs équivalents allemands qui ont des budgets équivalents, qui ont des joueurs qui étaient dans notre championnat auparavant, et les matchs sont intéressants à regarder.
C'est budget équivalent, tu dis toi? Sur les
ah ouais, sur les clubs Borussia Mönchengladbach, c'est pas énorme le budget. Alors il est peut-être un peu meilleur que Rennes, mais je sais pas, ça doit être, pour moi c'est l'équivalent de Lyon. Donc c'est pas, et tu regardes leurs matchs et c'est intéressant, et tu vois des joueurs qui étaient dans notre Ligue 1, ouais, et qui font des prestations très intéressantes. Donc c'est là-dessus où c'est surprenant, c'est que ça peut être aussi concours de circonstances, mais t'as l'impression effectivement que c'est le football français qui est pas au niveau, en tout cas en ce moment. Peut-être que c'est temporaire, mais là les matchs, tu t'ennuies. Je veux dire.
Tu t'ennuies. Tu regardes Rennes. Rennes ne touche pas la balle, quoi. Ils touchent pas la balle. Ils ont la chance de pas prendre 5 ou 6. C'est assez terrible à voir, quoi. Alors que tu regardes à côté, tu avais Barcelone-Juve. Le match est fabuleux, ça va à 2000 à l'heure. Barcelone, j'ai l'impression de les retrouver, c'est splendide. Et la Juve ne ferme pas du tout le jeu. La Juve, les pauvres, ils marquent 3 buts, 3 fois refusés. C'est vrai, ils hors-jeu à chaque fois. Mais
ouais, mais le problème, tu l'as dit aussi, tu regardes Barcelone-Juve. Enfin, c'est un petit peu comme si tu fais ton tournoi de tennis. Sur le court numéro 1, tu as Federer-Nadal. Puis sur le numéro 2, t'as un Gaston, le nouveau, le français qui est pas trop mal. Contre Schwartzmann.
Ouais,
bon, d'accord. Tu te dis, Gaston, de temps en temps, il fait des super matchs. Et puis, au quotidien, son niveau moyen est peut-être pas super élevé. Donc, ça peut être un match assez désagréable. Enfin, qui n'a rien à voir avec le Federer-Nadal à côté. Donc, effectivement, si tu compares Barça-Juve avec Rennes qui se déplace à Séville, forcément, il y a des chances que tu sois déçu, quoi.
Ouais, mais tu te dis, si Rennes tombait justement sur un énorme cador, s'ils étaient tombés sur un énorme cador, oui, ça aurait tourné à la purge, et c'est tout à fait normal. Séville, c'est pas quand même parmi les gros noms de la Champions League. Donc tu te dis, à niveau à peu près équivalent, même si c'est sûr que Séville est au-dessus normalement, tu pourrais aussi voir des beaux matchs.
Ouais, t'espères qu'il y ait match, ouais.
T'espères qu'il y ait match, quoi. On s'en fout, hein, que ce soit pas les vedettes de vedettes, mais t'espères au moins qu'il y ait match. Putain, on est rainés un petit peu, nous. Et non.
Mais je pense que c'est encore une fois, le coach, il espère accrocher la troisième place pour aller en UEFA.
Ouais.
Donc il se dit, on va pas trop jouer au football, on va essayer de faire un résultat. Pendant un certain temps, on y a même cru qu'ils arriveraient à tirer un match nul.
C'était le nul, faut pas le prendre. prendre dans ces cas-là.
Tout à fait, mais...
T'as un gardien rennais, alors qui est extraordinaire, mais extraordinaire, il te sort des trucs, mais complètement improbables, et quand il craque, bah, c'est logique que ça craque un moment. Hein. Il vient d'où, lui ?
Il vient d'arriver, donc je saurais pas, tiens.
Tu sais pas, non. Putain, il est monumental, quoi.
Parce que son camarade prédécesseur, il est parti à Chelsea, si je dis pas de bêtises.
Comme tous les gardiens de Rennes.
Et il fait de très bonnes parties à Chelsea depuis qu'il est arrivé.
Ouais, mais moi je te dis, on n'y va pas.
Bah moi je souhaiterais juste qu'il y ait des entraîneurs qui disent on y va pour jouer, tant pis, on va peut-être prendre 4-1 ou 5-1.
Ouais, mais là tu vas te faire fusiller par la presse. Regarde Marseille qui va à Paris l'année dernière. Et qui mi-temps 4-0. Et là, on te tombe, bah, tous les équipes du soir et compagnie, là. Oh, quel scandale, quel machin, quel truc. Bah, 4-0. Moi, je viens un match génial. Paris est bien sûr plus fort. Marseille, à aucun moment, ferme le jeu. Ils jouent tout le temps. Ils se font contrer des ballons et il y a but derrière. Mais c'est formidable. Derrière, toute la presse, Marseille, c'est au car, Marseille, c'est machin. Donc, si tu veux jouer, eh ben, tu t'exposes en effet à perdre la balle et en effet à prendre des pions. Donc, je comprends aussi les entraîneurs, hein, qui ferment la boutique et comme tu dis, ah bon, Rennes a frôlé l'exploit.
Ouais, mais
non, mais regardez le match un peu, Rennes, ils ont rien frôlé du tout.
Moi, j'aimerais qu'en France, on puisse avoir. On a eu Bielsa qui a fait une année à Marseille fabuleuse parce que ça jouait. Alors, ils ont fini sur les rotules, les Marseillais, puis ils ont craqué en fin de championnat. Donc, on a fait le reproche à Bielsa en disant, bah, il ne s'est peut-être pas géré le money time et tout. Ouais, mais ils ont joué toute l'année. On a vu des super matchs. Alors, effectivement, c'était déséquilibré. Ils attaquaient. Il y avait des trous, il y avait des contre-attaques dans tous les sens. Mais il y avait du spectacle et on a besoin de ça. Enfin, contre l'amorosité, je préférerais voir Rennes prendre 5-2 à Séville, mais au moins tu vois un match. Même, tu as l'impression que les joueurs sont éclatés parce que là, bon, tu mets le bus, tu défends. Il y a le gardien qui a dû prendre énormément de plaisir parce qu'au moment, il a été sollicité, il s'est éclaté. Alors, c'est quand tu dois être, je sais pas, avant-centre, Guirassy,
Dur. Mais même tous les milieux qui voient pas la balle, qui se font trimballer, c'est dur. Par contre, je disais, récupérer, parce que Marseille, c'est un peu le même bilan. On parle de Rennes, on fait le même bilan pour Marseille. Par contre, récupérer un Barça, moi, ça me fait sacrément plaisir parce que le match qu'ils font, donc je sais pas si t'as regardé, mais le match qu'ils font, c'est juste du génie, quoi. C'est retour au génie, quoi. Devant, ils sont fabuleux.
Ouais,
et
mais
ils sont bien alimentés par les mecs du milieu, donc.
Ouais, mais c'est intéressant parce qu'au moins, ça va peut-être permettre d'avoir eu, enfin, pour l'entraîneur, une autre optique. Il a repositionné Griezmann, Dembélé, il revient en forme.
Ouais. Mais Dembélé, alors moi je savais pas à ce point-là, j'ai l'impression que c'était la première fois que je le voyais jouer, tu vois. Le mec est un pur génie sur les il a des contrôles de balle, il a des crochets, c'est plus impressionnant que Messi sur la feinte, c'est plus impressionnant que Messi. Que Messi a été fabuleux, attention.
Dembélé, ça peut être fabuleux comme ça peut être n'importe quoi aussi.
Je comprends pas ça. Parce que je te jure que la mardi soir, ou c'était mercredi peut-être, il a été mais extraordinaire. L'air de dire, mais tu joues contre quoi, des Playmobil en face là,
c'est vrai qu'il y a une impression de facilité. Mais c'est ça qui est assez génial sur ce type de joueur, c'est que au moins tu vas voir quelque chose. Alors peut-être qu'il y a des soirs, il est au fond de la mine, tu vas rire un peu parce que le contrôle, il va le faire du genou, ça va partir à 1m50. Mais voilà, il se passe quelque chose.
Il se passe quelque chose,
c'est intéressant.
Mais alors pour un entraîneur, toi si t'es entraîneur, est-ce que tu prends un mec fantasque comme ça qui va te sortir des matchs mais absolument fabuleux et quitte à te sortir des merdes parfois, ou est-ce que tu préfères un mec qui est à 80% tout le temps, quoi?
Bah, je gère la chose de telle sorte que j'ai que deux ou trois gars comme ça.
Parce que
forcément, si t'as 11 joueurs comme ça, ça peut être du n'importe quoi. Mais d'en avoir un ou deux.
Mais.
Qui parce qu'en fait, c'est eux qui débloquent les situations. Voilà, c'est ce qu'on leur demande. Donc ça, c'est sympa.
Ça leur demande. Donc forcément, ça nous amène à un thème beaucoup trop récurrent ces derniers temps sur nos chaînes françaises. Mais forcément, des joueurs comme ça fait évidemment penser à Neymar. Et Neymar, quand il est là, c'est chiant. Et quand il est pas là, c'est chiant aussi. Donc, c'est quoi, tu vois? Toi, tu disais que tu veux bien les prendre, ces joueurs-là, mais pas plus de deux ou trois par équipe. Moi, je trouve que un, c'est déjà largement suffisant. Mais Neymar, faut être honnête.
Ouais, mais non.
S'il est pas là, C'est
ouais, mais là tu vois, tu touches à un point sensible, parce que c'est pas du tout la même chose. Dembélé, Neymar, c'est pas du tout la même chose. Dembélé, c'est instinctif. Il y a pas, il est pas en train de jouer un rôle. Il se fait plaisir. Alors il va essayer de dribbler trois gars. Il va faire un truc fabuleux, une super accélération. Mais ça reste avec un esprit presque enfantin. Ouais. Le football que t'aimes voir, quoi.
Ouais.
Neymar, c'est moi aussi, je me regarde, ouais. Je fais trois dribbles juste pour moi, mais ça donne rien. Truc Dembélé, il essaie, enfin, c'est l'objectif, ouais, ouais. c'est de faire des choses. Et tu vois, moi je rapprocherais plutôt Mbappé de Dembélé. Mbappé, il avait ça au départ, il a perdu tout ça. Tu le vois jouer, tu t'ennuies. Tu sens que le gars, il est à l'arrêt, il y a plus de spontanéité.
Il y a des éclairs de génie encore. Hein.
Ouais, il y a des éclairs de génie, mais pour lui.
Je suis d'accord avec toi, attention.
Il y a des éclairs de génie, mais pour lui. Il en a fait deux ou trois, mardi ou mercredi, si j'ai pas de bêtises. Mais en fait, tu t'aperçois qu'au final, c'est pour lui. Et ça, tu vois, Dembélé, il a pas ça. Et il a gardé ce plaisir qui est assez fabuleux.
Ouais, mais pour l'instant, ça rentre pas dans un cadre d'une équipe de foot, quoi. Comme tu dis, l'autre, il vient pour rigoler. Dembélé, il vient pour rigoler.
Bah, pas tant que ça, parce que le Barça le conserve.
Mais si.
Donc s'il était vraiment que...
Je sais pas si t'as regardé, du coup, je sais pas ce que t'as répondu tout à l'heure, mais je te jure qu'à un moment, il est dans le but, dans les 6 mètres, il doit pousser le ballon au fond. Bah non, le mec, il s'amuse, il redribble le type, et boum, il refait un crochet. Tous ses crochets sont réussis, hein. Les trois crochets, ils sont extraordinaires. Mais nous, on est là devant notre poste, on se dit mais putain, mais à un moment vas-y quoi, tire, et non il décale le mec, et je pense qu'il est content de lui.
Alors pour les vrais Lavallois, Dembélé me fait penser à un joueur qui a eu à Laval, Thierno Youm, dans les années 80.
Ah ouais, je l'ai celui-là.
Qui était fabuleux, et ses premiers matchs à Laval, il était fabuleux parce qu'il allait super vite, c'était une flèche, et il allait même plus vite que le ballon au départ, hein, pour ses camarades, et il nous faisait des coups où il driblait le gardien, il était à 2 mètres du but, il tirait sur le poteau. Ça c'était fabuleux, mais c'était assez génial parce que le gars était fantasque, mais il était super spontané. Tu allais voir le match, enfin je me souviens des ambiances, tout le monde criait Youm parce que tu savais qu'il allait se passer quelque chose de fabuleux ou une cagade monumentale, mais au moins tu payais ta place, tu savais que t'allais voir quelque chose, quoi.
Notre mémoire locale, mais alors ça doit rendre fou un entraîneur quand même, parce qu'à ce moment-là, moi je te parle là, le Barça il était à 1-0, 1-0 à Turin, et l'autre il te fait 3 dribbles dans les 6 mètres avant de décaler le mec, et une fois que c'est décalé c'était mort, après il y a trop de monde dans les buts, mais tu te dis
c'est clair que s'il gagne pas le match, je pense que c'est lui qui nettoie les chaussures de tout le monde, qui porte les sacs, etc.
Et PSG, donc PSG évidemment, PSG toujours, pépites. Alors on nous sort des pépites et des pépites. D'où il sort celui-là, là, le petit Kin, là.
Je crois que c'était un chanteur, moi, mais.
Ouais. D'où il sort celui-là, Moïse Kin, là. Apparemment, il a fait un peu de Juve. Il a fait avant.
Franchement, ouais, ils nous le sortent. Ça, c'est une trouvaille de Leonardo. Hein. Au moins, on peut dire que le directeur sportif, il travaille bien. Mais c'est vrai que, il est surprenant. 2 matchs, 4 buts.
2 matchs, 4 buts, l'autre. Tu rentres, t'es en Ligue des Champions, ça t'impressionne pas plus que ça.
Ouais, bon, après, c'était pas le Barça ou la Juve en face. Hein.
Oui, on est d'accord, mais il y a quand même une charge émotionnelle. Il y a que, putain, les mecs, c'est pas des robots, quoi. Et ces joueurs-là, ils rentrent.
Ouais, mais tu vois, eux, par exemple, le confinement, ça doit les aider. Parce que la charge émotionnelle, je pense que tu vas jouer en Turquie quand il y a
peut-être.
Tout le public, il y a les fumigènes, on t'a caillé ton car et tout. Je pense que c'est un peu différent que quand t'arrives, il y a personne, il y a 300 types qui sont dans les loges que t'entends pas. Pour tous les nouveaux joueurs, ça c'est moins c'est un côté.
Dire, tu peux déjà être sûr que la Grèce et la Turquie feront 0 points dans leur.
Bah non, parce que les Grecs Olympiakos a réussi à battre Marseille.
Ouais, ça compte pas, ça. C'est pas de mauvais esprit, s'il te plaît, Fred. Et donc il nous sort le numéro 9 de Paris, l'italien Icardi.
Qui est blessé, hein.
Qui est Icardi. Mais je veux dire, Icardi, où il va reprendre une place là-dedans, lui? Je sais, si tu places celui-là maintenant.
Ça lui fera un concurrent. C'est Icardi, il avait fait 3 premiers mois fabuleux. Après, bon, il se sentait un peu installé, donc il a un peu de mal à courir. Donc, ça va lui faire du bien aussi. Ouais.
C'est tout à fait vrai. Le temps tourne, Joël, le temps tourne. On se fait tout de suite une deuxième petite coupure avant d'attaquer le thème de la précocité, parce que je trouve qu'ils sont de plus en plus nombreux, ces joueurs, à éclore à un âge forcément pas canonique pour le coup, mais bien inverse. Trop précoce, à mon avis. À tout à l'heure, messieurs, dames.
J'aimerais tant mes chats vêtus de peloton aspirer quelques secondes d'éternité. Je m'en remplis. jamais connu la gloire, étant qu'un vulgaire passeur de bidon, qu'on voit passer l'été sur les boulevards, noyé dans une meute bleu, jaune, marron. Tu verras qu'un jour, là tu peux y croire, je saurai enfin m'imposer. Remporter le critérium, c'est pas rien, crois-moi, mais t'embrasser sur le podium, là c'est tout pour moi. Je voudrais que tu vois comme j'en chie pour toi, pour trois fleurs sur le podium. À ça j'en bats, crois-moi. Ma position est celle du bon smicard qui souffre l'automne. Mais pas plus tard, ce sera mon tour de raccrocher. Remporter le critérium, c'est pas rien, crois-moi, mais t'embrasser sur le podium, là c'est tout pour moi. Je voudrais que tu vois comme j'en chie pour toi, pour trois fleurs sur le podium. À ça j'en bats, crois-moi.
Allez, on y retourne sur Sport Epic. Vous êtes évidemment sur l'autre radio. Fred a été passionnant pendant cette petite pause puisque pour lui, tout simplement, les artistes sont morts. Il n'y a plus de place pour ces fameux joueurs fantasques. Il revenait évidemment sur Dembélé. Dembélé qui est extraordinaire. Est-ce que Barcelone a l'intelligence de le laisser sur le terrain parce qu'il est extraordinaire, ou est-ce qu'ils ne vont pas faire l'erreur peut-être classique, mais pour moi, qui pour moi n'en est pas une. Vous ferez votre avis derrière votre poste. Mais moi, je maintiens le fait que c'est un sport collectif, donc chaque joueur doit se mettre au service du collectif. Fred, tu défends l'inverse ?
Ah, je pense que pour le Barça, ils ont pris en considération que c'était leur facteur X. Donc ils savent qu'ils peuvent débloquer une situation, donc ils vont le laisser tel quel.
Mais ça veut dire que moi, je suis dans un vestiaire, j'écoute mon entraîneur, je suis là en train de prendre des notes parce qu'il faut que je sois là sur le terrain, là, à l'époque d'un Gourcuff, par exemple, d'un Christian Gourcuff. Je pense que le terrain était détaillé mètre carré par mètre carré pour savoir qui devait aller où. Et ben là, si t'as un joueur comme ça, ben je pense que Gourcuff n'aura jamais de joueur comme ça. Mais là, c'est... Bah, fais ce que tu veux, mon coco, il n'y a pas de règle.
Bah, je pense que Gourcuff, c'est un entraîneur intelligent. S'il a un joueur de ce niveau-là avec lui, il le laisse faire. Il le laisse faire.
Ouais, bah, moi, je ne suis pas du tout sûr moi, tu vois, je serais entraîneur à la place de Gourcuff. Je dirais, bah, ce n'est pas un club pour toi. Tu es peut-être extrêmement brillant, mais va voir ailleurs.
Prends des exemples plus anciens. Nantes qui jouait, donc Siodo qui jouait avec José Touré. Touré, il faisait un peu ce qu'il voulait sur le terrain. Et pourtant, ouais. Siodo, les entraînements, c'était rythmé, réglé, ouais. Comme du papier à musique. Et en fait, tu t'aperçois que quand tu as un joueur où tu sens qu'il peut faire beaucoup de différence en le laissant tranquille, parce que c'est aussi des joueurs, si tu essaies, ils peuvent rentrer dans un moule, mais ils perdent leur spontanéité, ils perdent tout ce qui leur permet de faire des différences.
Ouais, mais bon, pour moi c'est un sport collectif qui doit prévaloir sur le reste. Mais bon, je vous dis, vous faites votre avis.
Être déclencheur, ça peut dire être un soliste, hein, parce que Dembélé, il fait des passes. Hein. Il fait des passes.
C'est une vedette. Hein. C'est vrai que c'est une vedette. Tu sais jamais quand elle vient, la passe. Au bout de 2 dribbles, 4 dribbles, 5 dribbles, tu sais pas quand elle va venir. C'est compliqué. Pour les appels, tu penses à... Comment il s'appelle maintenant? Moi, j'oublie les noms. C'est un truc de fou. Le 9 de Paris qui est parti là.
Cavani.
Cavani, tu regardes ce mec. Il te fait 150 appels dans le match. Bon, bah, il doit tourner fou au bout d'un moment, quoi. Putain, mais...
Cavani, à Paris, il aurait eu Pastore. Il aurait eu des passes sans arrêt. Hein.
Je sais pas. On parlait de précocité avant cette coupure, on devait enchaîner là-dessus. J'ai l'impression que moi, tous les week-ends, on me sort un nouveau nom. Donc à Madrid, ça avait été la petite pépite de devant aussi.
Vinicius,
qui apparemment est bien entré dans le rang, ça devient très moyen.
Bah, ils veulent même plus lui donner le ballon.
Donc là, on a un Keane. Bien sûr, on a eu l'époque Mbappé. On a de ces noms là qui sortent et ça te sort à 17 ans, ça sort à 18 ans. C'est c'est quoi? C'est l'époque qui veut ça? Il y a quelque chose qui a changé?
Non,
a...
non, parce que pour les plus anciens, vous vous souviendrez de Laurent Paganelli à 15 ans et demi ouais, à
bien.
Saint-Etienne qui jouait qui joue en première et quand même avec autour de lui Platini, etc. Donc non, non, il y a toujours eu des
on
des,
est d'accord. Des joueurs précoces. Donc tu vois, tu es capable de citer Paganelli, 76, 17 à peu près.
Ouais.
Ça veut dire qu'il n'y a pas énormément de noms qui résonnent comme ça. Et là, en ce moment, j'ai l'impression que tous les week-ends, on te sort le nouveau petit jeune qui est extraordinaire. Et quand on dit petit jeune, quoi. C'est 18 ans, 17, 18 ans. Kamavinga, il est extraordinaire.
Ouais.
Il est,
Tout à fait. Ouais, mais alors, c'est aussi parce que le jeu a changé et on ne cherche pas les mêmes qualités chez les joueurs. On parlait, il y a deux minutes, tu disais que c'était la fin des artistes. Tous ces joueurs-là ne sont pas des artistes. Hein. On va mettre Dembélé de côté. Mais ce sont des joueurs dont les caractéristiques premières, c'est beaucoup d'explosivité. Donc, on demande des courses à haute intensité. Donc, c'est plus facile de faire des courses à haute intensité à 18 ans qu'à 34.
Ouais,
donc,
y a ça.
C'est aussi ces profils qui sont recherchés, quoi.
Ouais, mais avoir la maturité à cet âge-là, enfin moi je trouve ça fou. Je trouve ça fou.
Moi je pense pas que c'est une question de maturité, c'est qu'ils se posent pas de questions. D'ailleurs, tu verras que souvent ils sont meilleurs à 17-18 qu'à 22-23.
Ouais, peut-être.
Parce qu'à 22-23, ils ont commencé à prendre un peu de maturité, ils se posent plus de questions, ils sont moins spontanés et du coup, ça les freine un peu.
Donc on se rappelle ce fameux Nantes-Bastia où c'était Bastia-Nantes d'ailleurs, Nantes qui était au fond du seau et qui lance Mickaël Landreau, 17 ans.
Ouais. Alors
troisième gardien à l'époque. Alors évidemment, en plus pour un gardien c'est fabuleux parce que si t'arrives à rester numéro 1 dans les buts, bah tu sais que t'en as pour presque 20 ans,
ouais, 600 matchs
ouais. à défendre ta cage. Donc c'est extraordinaire. On va vous demander des petits records de précocité.
Alors je dis juste pour Landreau. Hein. D'un autre côté, il était vieux avant l'âge. Hein. Il avait 17 ans physiquement, mais dans la tête, il avait déjà 30 et quelques années.
C'est vrai, c'est vrai. Je l'ai joué en moins de 15 nationaux avec Morlaix, figure-toi. Mais bon, je ne suis pas là pour parler de moi, évidemment. Tu vas me citer, Fred, je te parle des meilleurs buteurs du championnat de France. Je te parle des plus précoces. Tous les noms que j'ai là, tu les connais. Et c'est les 5 premiers. Donc, tu les connais, les mecs.
Donc, faut que je donne des noms.
Alors, c'est pas le buteur le plus jeune. Hein. C'est le mec qui a été meilleur buteur du championnat. Ton nom et puis l'âge.
Mbappé.
Mbappé, c'est le troisième. Ouais. Il avait 20 ans et 5 mois.
Ouais, donc en buteur. Meilleur buteur du championnat de France.
Ouais. Tu les connais tous. Le premier, c'est une légende des années 50, machin.
Juste Fontaine.
Non, Balotte.
Raymond Coppa.
C'était Piantoni.
Ah, Piantoni, ouais.
Piantoni
ouais.
À 19 ans, c'est le premier. Ouais. Le deuxième, c'est un Lyonnais.
Lacombe, Bernard Lacombe.
Non, persona non grata en équipe de France.
Ah, Karim Benzema,
Karim
pardon.
Karim Benzema, ouais. 20 ans, 4 mois. Ouais. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, putain, il était déjà meilleur buteur champion de la France. T'as le quatrième, il a raté sa carrière en équipe de France avec des grosses blessures au tibia.
Ah, Djibril
Cissé, ouais. 20 ans, 8 mois, ouais. Le mec aussi, 20 ans, t'es
ouais, c'était un avion de chasse,
championnat.
Ouais. Ouais.
Et on finit le cinquième, c'est les années stéphanoises.
Laurent Rousset ?
Non, les grosses années, grosses années stéphanoises.
J'allais dire Michel Platini, mais non, il était trop vieux.
C'est Révelli.
Ah ouais, alors Hervé Révelli ?
Ouais, 21 ans et 1 mois, figure-toi, tu vois. Donc, t'as Piantoli qui démarre à 19 et le cinquième, c'est 21 ans. C'est juste impressionnant, impressionnant. T'as raison, peut-être, sur le fait que dans la tête, ça cogite moins, ça machin. Tu vois, Djibril qui jouait.
Ouais.
Djibril, ça se posait pas mille questions. Hein,
ouais,
ça voyait une balle, ça tapait. Hein.
Mais de toute façon, Djibril, on l'a pas comme si c'était un pote. Hein.
Ouais. C'est vrai.
C'est le pote à tout le monde parce que je pense que c'est un gars qui est fondamentalement sympa. Il a commencé à moins bien tourner. Une fois qu'il était gravement blessé, mais je pense que c'est même pas uniquement physiquement, c'est que dans la tête, une fois qu'il a été blessé gravement, que c'est compliqué, il
peut-être.
A perdu en spontanéité.
Peut-être.
Parce que c'était le gars, il tirait à 30 mètres, il se posait zéro question.
À la
quoi,
papa,
boum.
Papa,
ouais,
c'est pareil. Papa, il tapait, mais papa à 30 ans, il tapait encore de partout, lui.
Il a mis du temps, il a fallu un peu de maturité pour cadrer ses frappes, et je pense que lui, c'était
mais
un problème
pas,
lié
moi.
À l'entraînement.
Moi, justement, à 30 ans, ce qu'il tente, putain, il devrait se dire, mais ça a une chance sur combien de rentrer, quoi.
Ouais, mais tu vois, l'histoire de Papin, il fait la Coupe du Monde 86. Sur le premier match, on doit jouer le Canada, de mémoire, un truc comme ça. Il met un but. Hein, il met un but. Commentaire de Platini à la fin du match. Si Papin avait été adroit, il finissait meilleur buteur du tournoi, ouais. Du tournoi juste sur ce match-là. C'est-à-dire qu'il a eu au moins 10 occasions, il en a mis une. Il vendangeait beaucoup quand il venait de Bruges. Il était fabuleux, il a une super qualité physique, mais il était foufou. Je pense qu'il a énormément progressé. Lui, l'entraînement lui a fait beaucoup de bien, etc.
Ouais. Mais quand tu parlais de spontanéité tout à l'heure, je me dis. Justement, avec cette, le fait de, quand tu grandis, tu te dis, mais c'est, tu commences à faire des stats dans ta tête, ça, ce geste-là, j'ai une chance sur combien de le passer, quoi. Et les mecs, ils les passent. Tant qu'ils réfléchissent pas trop, à mon avis, ils les passent. Ouais. Et quand tu commences à réfléchir, c'est un petit peu
mais
mort.
Mais tu vois, cette précocité, c'est plus flagrant dans d'autres sports.
À savoir
Par exemple, au tennis, tu as souvent des joueurs qui apparaissent à 18, 19, 20 ans. Qui se pose zéro question, qui joue, c'est fabuleux, c'est qui grimpe très haut, et d'un seul coup, ils disparaissent parce que il y a des points à défendre, il y a des sponsors, il y a les points à défendre, faut faire attention. Et là, d'un seul coup, ils sont inhibés, ils se mettent à jouer qu'à 80% et ils font plus de différence. On a en France, on est spécialistes. Hein. On a eu Génération Monfils, etc., qui était champion du monde junior avec des qualités physiques phénoménales.
Ouais.
Alors le gars, attention, hein, c'est des gars qui ont fait quand même des brillantes carrières derrière, mais qui n'ont pas atteint le niveau qu'on pouvait espérer.
Le pauvre Monfils, je sais qu'il nous suit également, donc on va s'excuser parce qu'on parle de toi quasiment, enfin de vous, hein, je ne vais pas me permettre de te tutoyer, mais on parle de vous quasiment tous les dimanches en disant que votre carrière est plutôt loupée, alors que
ah ouais, c'est des c'est monstrueux. Mais c'est par rapport à ce qu'il montrait à 16, 17, 18 ans, fait, tu peux être très déçu.
Il n'y a que toi qui suis Roland Garros Junior aussi. Hein.
Non, mais j'ai des exemples. Chez les Allemands, ils avaient eu Marc-Kevin Göllner qui avait gagné le tournoi de Nice en battant Lendl.
Il faut connaître.
À 17 ou 18 ans, et il n'a rien fait derrière.
Autrement, tu vas me faire du tennis pendant une demi-heure. C'était aussi vrai sur les tennis women à un moment, elles avaient toutes 16 ans. Ouais. Le Martin Hingis, tout ça, elles avaient toutes 16, 17 ans. Tu vas me citer. Et là, nos auditeurs sont peut-être très très costauds, mais le plus jeune médaillé d'or olympique, toutes disciplines confondues. Et si vous me trouvez l'âge, messieurs dames, vous êtes énorme.
Moi, je sais pas, c'est un 13 ans au plongeon.
Ah non, c'est très bien, mais c'est pas lui. C'est très bien. Je l'ai vu aussi celui-là. C'est,
c'est peut-être. Alors, ça peut être en gym, ça peut être plus jeune encore.
C'est de la gym, ouais.
Ouais,
c'est
plus jeune encore, 9 ou 11 ans.
Ouais, c'est un truc de barge. C'est 10 ans et 18 jours. C'est un Dimitro Landras, barre parallèle par équipe. Bon, c'est en 1896, hein, c'est les premiers JO. Mais à 10 ans, il est sur les parallèles. Ça veut dire que tu démarres à quel âge, quoi? Parce que...
Pour les lecteurs de l'équipe magazine, il y avait un super reportage sur les sports asiatiques samedi dernier. Ouais. Et il montrait l'équipe de Singapour, une jeune fille, 9 ans, elle était en équipe première de Singapour, donc équipe féminine senior, elle avait 9 ans. Quoi.
Ouais.
Donc,
passe à fouler les jetons quand même. Hein.
Ouais,
ça fout les jetons
ouais.
Parce que la gym à l'époque, donc 1896, hein, elle avait encore ses lettres de noblesse, donc elle les a toujours bien entendu, mais il y avait beaucoup plus de monde qui pratiquait la gym, donc pour arriver à ce niveau là fallait être costaud. Tu dis que le gamin il a 10 ans et comme tu dis là, les boucheries qu'on est en train de voir dans les pays asiatiques. Ouais, ça laisse à réfléchir aussi, hein, le corps humain, est-ce qu'il peut amortir tout ça, tout ça. Ouais, moi ça va faire des vieux un petit peu moches tout ça. Voilà, c'était cette précocité qui nous interpellait aujourd'hui. On revient à notre football bien aimé, bien sûr. Le Real est-il à la rue, mon Fred? Alors moi, je suis pas Real, hein. Mais là, de les voir comme ça, ils me plantent mes pronostics. En plus, je vais te dire, là, j'ai un peu mauvaise. Mais quand tu viens de prendre un gros 3-0 sur le match d'avant en Ligue des Champions, j'imagine que le discours a dû être musclé parce que ils sont forcément obligés de prendre des points là. Et c'est encore un 2-2
tiré par les cheveux, miraculeux.
Miraculeux.
Miraculeux. Je pense que Zidane, il a vraiment une bonne étoile au-dessus de lui. Parce que concrètement, à 88e minute, t'es mené 2-0. Je pense qu'il pouvait quasiment faire son vestiaire ou sa valise.
Ah ouais, tu penses?
Peut-être pas, parce que pour des raisons.
Classico victorieux.
Ouais, mais un pauvre classico, parce que je pense que ça aurait été le même Barça que contre la Juve. C'était pas du tout la même chose.
Peut-être.
Et il s'en sort miraculeusement. Donc merci Ramos, merci Benzema, les tauliers qu'ont assuré.
Ouais.
Mais
combien de fois ça leur est arrivé ça?
Ah bien sûr, mais de toute façon, alors tu parlais...
Les Champions League, tu te rappelles, Atletico, le final Atletico, ils perdent 1-0 à la 88e, ils gagnent 2-1, c'est des trucs de fou, combien de fois ça leur est...
Après c'est un tout, ils ont des joueurs expérimentés, je pense qu'un joueur comme Ramos, c'est une machine, il n'y a qu'à voir, dès qu'il n'est pas là, Varane, bah, il tire partout dans ses buts, il fait des passes à tout le monde, n'importe quoi, dès qu'il est là, ça y est, ça redevient correct. C'est pareil, hein, Ramos, il est inoxydable. Hein. Je veux dire, inoxydable. Ça fait, je sais pas, 170 sélections dans l'équipe d'Espagne.
Et il y a un paquet de fois, on s'est dit, c'est fini.
Ouais.
Le mec, bravo, t'as une carrière extraordinaire, arrête maintenant. Et ben non, le mec est encore fabuleux, 15 jours après, il est fabuleux.
Ouais. Les joueurs expérimentés, l'expérience du club, l'aura du club, parce qu'il y a toujours les décisions, l'arbitrage va toujours en leur faveur. Mais bon, d'un autre côté, c'est qu'il le provoque, entre guillemets, aussi.
Bah peut-être.
Il est temps qu'il se régénère, qu'il se renouvelle quand même, parce que là, tu sens que c'est le... Là, tu vois des joueurs...
On dit ça, et puis on avait dit ça pour les fameux Barjot, machin, truc, chose, en 2010, en 2008, et puis 2012, ils gagnent en écrasant tout le monde.
Mais là, ils ont leur milieu de terrain, tu vois, Modric, j'ai perdu le nom de l'Allemand qui est très fort, milieu de terrain, mais bon, et c'est des gars qui ont 20 minutes dans les pattes, là, maintenant, 20-25 minutes, alors ils auront peut-être 60 minutes au printemps. Mais là, tu sens que c'est dur, ça commence à être compliqué, quoi.
Et c'est pas nous qui allons dire le contraire, Fred, l'âge fait du mal au guibol. Attention. La Juve, par contre, elle, est-elle Ronaldo dépendant, comme on aime bien dire maintenant ce petit terme-là ? Et pour aller plus loin, est-ce que le Covid est tout simplement pas en train de changer la face de la Ligue des Champions ? Parce que c'est vrai, il y a des équipes qui partent au combat, non, bien sûr, ça reste du foot, mais qui vont aller jouer avec 3, 4, 5 joueurs de moins. Et c'est plus le même match. Hein. La Juve sans Ronaldo, c'est pas le même match.
Clairement, c'est vrai que c'est ça fausse. Je sais pas si ça fausse, mais c'est une donnée à prendre en considération.
Bien sûr que ça fausse. C'est pas est-ce que ça fausse.
Ouais, après, il faut faire le bilan parce que comme toutes les équipes sont touchées de manière cyclique, bon, une fois, c'est la Juve qui joue sans Ronaldo, mais il sera peut-être là, lui, au printemps. Alors que pour d'autres, c'est au moment du printemps que c'est décisif qu'il n'y aura pas le joueur. Donc faut voir, mais c'est vrai que ça change tout, ça modifie tout. D'ailleurs, ça modifie même les gestions d'équipe, parce que avec le fait de pouvoir faire 5 remplacements, il y a des coachs qui ont pris ça en considération, qui sont capables de faire des changements tactiques assez importants au bout de 25 minutes.
Ouais.
Donc moi je crois qu'il y avait Bielsa qui était capable de faire ça, de sortir un mec au bout d'un quart d'heure, on t'es pas bon, on fait autre chose. Et il y en a quelques-uns qui commencent à le faire au bout de 30-35 minutes, se dire bon. Là, on prend l'eau, on change. Donc,
ça se voit tout de suite. Dans un match, ça se voit tout de suite. Tu peux renverser la vapeur au bout de 10 minutes, mais tu ne la renverseras pas au bout de 30 minutes. Si
ton équipe n'est pas suffisamment bien en place et tout.
C'est une certitude.
Après, c'est un de tes deux meilleurs joueurs qui est au fond de la mine, ça doit être dur de le sortir au bout d'un quart d'heure. Quoi. Donc,
Ouais, ça c'est sûr, sachant qu'il y en a qui n'ont pas le droit de sortir. Là, tu vois encore, c'est Griezmann qui sort le Barça. Ouais, parce que c'est monsieur qui sort avec le sourire, sauf qu'il a été excellent, Griezmann.
Mais je pense que là, du coup, il avait un vrai sourire parce qu'il sait aussi qu'il a fait un bon match.
Ouais,
quoi.
Mais il sort. C'est tout le temps les mêmes qui sortent parce qu'on a peur de sortir certains mecs.
Ouais, mais tu l'as connu à n'importe quel niveau. Souvent, avant de pouvoir faire tes 90 minutes, faut que t'aies prouvé plus que les autres. Donc, tant que c'est pas ça, il sera amené à sortir.
Peut-être. Écoute, j'espère moi qu'on aura un printemps plus exaltant au niveau des formations des équipes, parce que je te dis, ça me dérange quand même qu'il manque certaines têtes de gondole dans les équipes. Ça fausse l'idée forcément, et si tu te retrouves avec une finale Juve sans Ronaldo et sans Messi au Barça, c'est pas du tout la même finale. On finit peut-être Joël avec la séance de pénalty. Hein, évidemment, comme au football, à pénalty, souvent les joueurs, ça démarre la séance de pénalty. Bravo, t'as fait un bon match, super. Maintenant, tant pis, hein, c'est à la grâce de Dieu, c'est une roulette, machin, truc, chose. On entend ces trucs-là. Est-ce que t'es d'accord avec ça, Fred, ou est-ce que tu dis pas aussi? C'est un travail, le péno. C'est-à-dire que ça se bosse, le péno. C'est pas je vais tirer au hasard, je vais, et le gardien, je vais pas sauter au hasard.
Ah non, mais clairement, je pense que dans les grands clubs, c'est préparé.
C'est
le gardien s'est bossé à fond. Ouais. Donc les gars, ils s'est analysé et tout, ils savent. Il y a trop d'enjeux maintenant pour se dire, bah voilà, tiens, non, je regarde jamais la vidéo, comment font les autres, et puis je vais improviser. Ah, ça t'évite quoi.
Alors c'est ça empêche pas de tirer à pédo.
Alors ça n'empêche pas que je pense qu'il y a des joueurs qui quelquefois vont faire un truc totalement enfin j'allais dire irréfléchi ou surréaliste parce que justement ils savent qu'ils ont été épiés de A à Z, mais après ça se prépare, tu prépares tout quoi.
Ouais.
C'est comme si tu disais que le tennisman il travaille pas le smash, c'est trop facile, donc ça il en fait jamais. Ouais. Bah non, tu le bosses quoi.
Alors t'as des mecs comme Griezmann qui disent que ils sont capables de voir où va le gardien. Ils sont capables, au moment de leur course d'élan, de voir où part le gardien et donc, eux, de changer d'idée dans leur frappe de péno. Bah, moi, j'y crois pas. Je pense que le cerveau, il peut pas réfléchir aussi vite que ça.
Bah, sauf quand. Si, quand ils sont capables, c'est que le gardien est parti beaucoup trop tôt et là, n'importe qui le mettrait.
Ah ouais,
parce que t'as des gardiens qui partent très tôt. Hein, donc, franchement, tu le sais, tu te dis, bah, le gars, il a plongé, l'autre a pas commencé à courir. Donc.
ouais, mais tu sais, donc, ils doivent perdre au péno l'Atlético, une Ligue des Champions. C'est Griezmann qui rate le péno. Il dit, bah maintenant je peux vous dire j'en raterai plus un, et tout simplement parce que maintenant je sais où part le gardien.
L'autre fois je regarde la télé
et ben je ne sais pas où il va le gardien.
Moi j'ai vu en équipe de France la dernière fois, il a quand même tué un pigeon, donc
là il tire au-dessus
donc je pense que dans ces cas-là vaut mieux rien dire. Tu peux ressentir les choses, tu peux avoir, mais après c'est super dur à tirer un pénalty.
Mais c'est super dur, mais bien sûr. Et nos amis gardiens qui nous écoutent aussi, à part le gardien d'Ontram, parce que lui, de toute façon, c'est son équipe qui a toujours les pénaux, mais les gardiens de n'importe quel niveau, soyez intelligents et respectez les statistiques mathématiques. Ça veut dire qu'un droitier, s'il regarde le but, il va à 70% taper à gauche. C'est normal, son pied, il le ferme vers le but. Et s'il ouvre son pied sur la droite, c'est 30% des tirs. Donc, c'est pas compliqué, quoi. T'es gardien, t'as 70% de chances d'avoir raison. Et moi, je comprends pas pourquoi les mecs, ils réagissent pas là-dessus.
Mais je pense qu'il y a des gardiens qui, ça, le savent.
Le savent.
Qui le savent, qui le prennent réellement en considération et qui vont plonger de manière statistique, pas au feeling. Et je pense qu'il y a des gardiens qui préfèrent faire confiance à leur feeling, quoi. En se disant, bon, leur feeling, qui est, comment dire, c'est pas totalement inconscient puisque ça a été bossé, ils ont vu les vidéos, etc. Donc, je pense que ils réfléchissent dans les deux minutes avant, ils sont pas en train de se dire, bon, alors lui, il est droitier, il va tirer.
Ah ouais, mais moi, tu vois, je ferais ça. Si j'étais gardien,
Non, je pense que ça, c'est du quotidien et après, c'est intégré. Ouais. Donc, le gars.
Mais je sais pas si tu te souviens de cette fabuleuse image dans, comment ça s'appelle, les Bleus de 98. Je sais plus le nom de la cassette, mais
les yeux dans les bleus,
où ils interrogent Barthez juste avant la série de pénaux contre l'Italie, et donc il y a l'entraîneur adjoint qui va le voir et qui dit, bah regarde, machin tire là, regarde, il faut que tu sautes là. Et l'autre, il t'explique après, mais j'ai rien écouté. Je m'en fous royalement. Moi, j'y vais comme ça. J'étais heureux d'aller à la séance de pénaux et je saute où j'ai envie de sauter. Ouais. Je veux pas écouter, moi.
Ou alors après, c'est Barthez, ça fait partie du personnage.
Peut-être.
Hein, parce que, je veux dire, c'est tout est comme ça. Faut pas se leurrer, les mecs, c'est des ultra pros. Donc j'ai du mal à croire que le gars, il vienne, tiens, je viens de fumer une clope et puis je vais voir.
Sauf qu'est-ce qu'il nous disait d'instinct tout à l'heure.
Mais après, je pense que ce qu'il veut dire, c'est que c'est pas la peine de venir l'embrouiller à 30 secondes du truc.
Ouais.
Je veux dire, soit c'est préparé en amont, soit c'est fini, parce que là, t'embrouilles tout le monde. C'est un peu, t'es enseignant, tu passes un concours à l'oral, c'est comme si deux minutes avant l'oral, on te disait, faut que tu dises ça. Ouais. Là, tu vas dire, non, stop, là, maintenant, je suis dans mon truc, on va voir ce qui se passe, quoi. Et là, c'est la même chose, il est trop tard pour venir leur en mettre. Alors, ça, tu vois, d'un côté, je me dis psychologiquement, mais c'était en 98, je pense qu'on aurait plus la même chose maintenant. Enfin, c'est tout ce qu'il faut pas faire, quoi.
Ouais, venir
un mec à 30 secondes du truc et dire, ouais, alors lui, il va tirer là, etc. Lui, il a les chaussures rouges, donc le rouge, ça va par là. Non, là, je pense que le gars, tu prends ta concentration, tu fais comme tu le sens. Il y en a qui ont besoin de rire avant de déconner. Il y en a qui ont besoin de s'isoler complètement. Mais après, c'est trop tard. La préparation doit se faire bien en amont, quoi.
Très certainement. Et ben, nous, on va s'arrêter là après cette séance de péno. Merci, Joël, d'avoir supporté tout ça pendant une heure. On est malheureux, évidemment, de vous quitter. On est malheureux de quitter le studio, mais on ne désespère pas, bien sûr, d'être en distanciel, Joël, si tu nous l'accordes, dans 15 jours. Merci Fred, bonne
Merci
reprise à,
vous. À
toi et à très bientôt sur les ondes de l'autre radio.
Portez-vous bien.